Je vais essayer de faire une présentation express de l'histoire et l'évolution de la médecine française, de la médecine féline, ou comment le parent pauvre de la médecine vétérinaire est en train, devient un patient à part entière. Alors, je vous avais promis, et quand j'ai commencé à rédiger cette conférence, j'avais mis difficile d'imaginer aujourd'hui de ne pas prendre soin des chats, et pourtant la disparité des soins reçus par les chats est encore importante, y compris en France. Hier, c'était sur Google, et ça annonçait des campagnes de stérilisation dans Lyon, en présentant ce qu'est la réalité de ce que Marie Pastre vous a dit à la SPA, de ces chatons qui sont jetés, qui sont apportés dans des cartons. Et j'avais promis, et ça je l'avais déjà mis avant, on ne s'est pas concerté avec Jérôme Langui, avec Marie, voilà les chiffres. Donc tous les ans, la DGAL, vous pouvez noter le numéro de ce document qui est disponible à partir du mois d'août. La DGAL recueille tous les chiffres qui sont donnés par des refuges et par des fourrières, des chats qui y passent. Et c'est vrai que la majorité des chats qui passent dans des fourrières, malheureusement, ne sont pas identifiés. Et donc, 39% plus 28% des chats, 28% des chats sont euthanasiés. Et qu'en tout, l'an dernier, en 2016, 8348 chats ont été euthanasiés. Donc, ces chiffres-là, ben, il faut les connaître et il faut le savoir. Alors, je vais aller très vite parce que précisément, justement, ce que disait Frédéric Vitoux est juste. Même si j'avais mal identifié la période des Lumières, mais maintenant, les choses sont claires pour moi. C'est vrai que le chat a été longtemps maltraité au Moyen-Âge, même si au XIIIe siècle, il y avait en Égypte le sultan Eldarber Bas qui avait légué un jardin aux chats nécessiteux, et ça s'appelait le verger des chats. Et à la même époque, en 1200 quelque chose, celle qui allait devenir Sainte-Claire à Assise a eu à ses côtés une petite chatte, et cette chatte, Sainte-Claire avait des douleurs terribles qui l'ont affectée jusqu'à la fin de sa vie, et cette chatte prenait soin d'elle et était à ses côtés, finalement faisait d'une certaine façon des soins palliatifs. Et depuis la mort de Sainte-Claire, toutes les religieuses dans l'ordre des Clarisses accueillent les chats dans les monastères. Ça, c'est une mosaïque à Naples. Et puis, bien sûr, le livre dont vous avez parlé, Frédéric, donc en 1727, il y a toujours eu, en fait, dans l'histoire de France, des amis des chats, bien souvent des artistes, des écrivains, qui, comme Moncrief, donc, prennent la défense des chats. Et j'avais aussi citer Montaigne. Alors peut-être dans cette phrase-là, moi ce que j'y vois, c'est que si on demande à un étudiant en philosophie qui a écrit ça, peut-être qu'il nous dira que c'est Derrida, peut-être qu'il dira que c'est Montaigne, mais c'était d'une modernité frappante, parce que moi j'y vois la façon dont il témoigne finalement de voir dans sa chatte à l'égal de lui et de dire est-ce que c'est elle qui joue de moi ou est-ce que c'est moi qui joue avec elle. Et quelque part, il y avait tout été dit aussi avec Montaigne, à la fois la motivation du chat, le tempérament du chat, son caractère propre, et des sujets qu'on a débattus longuement du point de vue scientifique ces derniers temps. Ce qui motive les scientifiques, les médecins, les écrivains, les artistes, c'est vraiment la curiosité qu'aiguise le chat. Et donc, de tout temps, on a décrit un certain nombre d'épidémies, effectivement, qui ont été marquées dans les dictionnaires des maladies vétérinaires, notamment les maladies du jeune âge. Alors, c'est très difficile de déterminer si c'est du typhus, si c'est du coryza. Là-dessus, c'est pas facile. Mais en revanche, on rapporte ces épidémies depuis 1567, et vraiment malheureusement, tue des grands effectifs de chats. Et puis, en 1828, il y a ce traité sur l'éducation du chat domestique, écrit par le chanoine Raton, qui était un pseudonyme de l'écrivain Rédarès. Alors, mon exemplaire est en mauvais état, mais écoutez, au moins je l'ai trouvé. Il écrivait à propos de cette maladie, dont les symptômes sont si effrayants et la marche si rapide qu'elle est presque toujours mortelle. On conseille encore d'assommer les chats qui en sont atteints pour deux raisons, l'une pour les empêcher de souffrir, l'autre pour éviter la contagion. Et en 1828, eh bien, ce chanoine Raton, il employait le mot « souffrir » pour les chats, qui est un mot que, personnellement, je n'arrive pas toujours à négocier avec mon rédacteur en chef, parce qu'il me dit « ah là là, commence pas à dire de la souffrance, il faut parler de la douleur ». Ok, mais c'est un peu quand même... on ne va pas priver les animaux de la conscience qu'ils ont de ce qu'ils subissent. Ça, c'est juste pour vous montrer des images de galles dartreuses dont on parle aussi à l'époque. Et puis, le chat commence à apparaître dans des ouvrages vétérinaires, donc généralistes, alors parfois avec juste quelques pages. Entre autres, en 1551, le chat est un animal familier et domestique que tout le monde connaît. Circuler, il n'y a rien à déclarer. Aldrovandi emporté dans un sac, un chat trouve toujours moyen de revenir chez lui. Et en 1890, Beugnot, dans le dictionnaire usuel de chirurgie et de médecine vétérinaire, consacre 2 pages au chat en commençant par ses traits de caractère et surtout 4 propriétés assez distinctes qu'il partage avec très peu d'animaux. Une espèce de râlement qu'il produit à volonté et qui annonce presque toujours son contentement. Donc je me suis interrogée si mon ronronnement n'était pas encore inventé et mis et employé dans la langue française. Deuxième point, la conformation particulière de son œil. Troisième point, le chat a un goût décidé pour les odeurs. Il aime les parfums et flatte volontiers les personnes qui en portent. Et quatrième point, la dernière propriété que le chat possède éminemment, c'est la faculté d'être électrique, c'est-à-dire de donner des étincelles électriques lorsqu'on le frotte avec la main. Et ça, cette particularité effectivement physiologique lui a valu malheureusement que les peaux de chat soient utilisées jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça pour les humains atteints d'arthrose. En fait, ça, c'est vraiment le premier livre totalement consacré au chat, et cet ouvrage est une pure merveille. Moi, je l'ai consulté, j'ai pu le manipuler à l'école vétérinaire de Lyon, à la bibliothèque. C'est un ouvrage d'Hercule Strauss-Durkheim en 1845. C'est 13 planches d'anatomie qui sont donc à l'italienne, qui sont donc au format du chat. Alors, évidemment, c'est des planches d'anatomie. Donc, voilà. Toujours dans la même position et c'est juste remarquable. Je passe sur les Anglais et puis comme nous sommes en France, j'ai fait le répertoire des premiers ouvrages vraiment dédiés à la médecine féline et mes camarades et amis britanniques n'étaient pas très contents, mais sincèrement, s'ils lisaient mieux le français, ils seraient quand même d'accord, j'espère, avec moi, pour dire que le premier livre de médecine féline, c'est celui de Gaston Percheron, qui était un vétérinaire et rédacteur, qui a créé la Semaine vétérinaire, qui était un éditorialiste, qui est mort 2 jours après avoir signé et rendu son dernier éditorial, et qui a commis 3 ouvrages, un sur les vaches, un sur le perroquet et un sur le chat. Et dans celui sur le perroquet, il décrit la mélancolie du perroquet, et c'est juste un bonheur de sensibilité et de compréhension de l'animal. Donc Gaston Percheron disait « Nous avons dit dans les pages qui précèdent de quel prix est pour l'homme la présence du chat dans les habitations. Manifestons maintenant le regret qu'une bête, si éminemment utile et vouée de par l'état de domesticité que nous lui imposons, à tant de maladies et d'infirmités diverses, n'ait encore trouvé personne pour étudier et les maux que lui occasionne fatalement cette servitude et les moyens les plus propres de les enrayer et d'y porter remède. Il y a là une lacune. » Et à cette époque-là, on est en 1885 et il plaide vraiment pour qu'il y ait une médecine vétérinaire qui fonctionne. Et à l'époque, et Marie Pastre va être contente, on pratique les castrations des chats, parce qu'évidemment, les chats, ce n'est pas moins facile, et on castre les chats à 3 mois. Et ça, c'est l'ouvrage de Larieux et Jumeaux en 1926. Et eux, vraiment, ils exhortent leurs confrères à pratiquer l'anesthésie générale en disant « L'anesthésie n'est pas aussi employée qu'elle devrait l'être en chirurgie féline. Beaucoup de praticiens ne la pratiquent que rarement, la trouvant par ignorance, inutile, coûteuse et même dangereuse, préférant encore les procédés de contention aussi brutaux que classiques. » Et voilà les techniques d'anesthésie de l'époque. Et ça, c'est des techniques dans un ouvrage en 1931. Donc d'anesthésie à l'éther avec un masque. Alors je me suis interrogée sur pourquoi on avait mis tellement de temps, nous les vétérinaires, à vouloir mieux connaître, mieux soigner un animal qui depuis tant de siècles était proche de l'homme. Et C'est difficile. Ce matin, Catherine Bastide donnait une explication en disant le chat, c'est la femme. Est-ce que finalement, dans tous les... C'est cette mentalité-là, est-ce que c'était finalement qu'un subalterne? Cet article est un article d'un confrère vétérinaire qui s'appelle Linet, qui définit le chat comme un patient et qui explique que si le cabinet n'est pas assez grand pour avoir une chatterie spécialement pour les chats, ben c'est bien de mettre une boîte dans la cuisine du vétérinaire. C'est le seul endroit bien pour accueillir un chat hospitalisé. Et il précise qu'il faut absolument engager du personnel et... alors, les servantes et les domestiques, à l'époque, j'imagine que ça peut se traduire comme une aide-soignante maintenant, en disant qu'il faut quelqu'un qui soit vraiment dédié aux chats et qui les aime. Et cherry on the cake, l'article date du 25 décembre 1897. Dans les choses qui ont permis aussi que les chats soient plus proches de nous, Jérôme Langui le disait tout à l'heure, vivre avec un chat mâle entier et dont l'odeur des urines a forcément... importune nos narines, ben il faut les stériliser. Alexandre Landrin donne les techniques. Ça, ce sont en 1968, donc c'est pas si. Voilà, c'est quand même relativement récent. Un tablier en cuir, voilà à quoi ça ressemblait avec le chat, pour stériliser évidemment sans anesthésie générale. Et dans le même livre, Horst Joachim Christophe, qui pourtant a compris qu'avec le chat, on ne peut rien faire sans contrainte, il nous montre des photos de contention qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait actuellement et ce qu'on recommande actuellement. Voilà, ça c'était une photo d'ailleurs d'il y a 20 ans, mais de ce chat s'appelle Dr. Mew, et c'était la mascotte du centre de médecine féline à Cornell aux États-Unis. Et c'est vrai qu'entre la bibliothèque et les livres anciens que je vous ai montrés et maintenant, on a évidemment le monde d'Internet. Donc, alors je vais passer juste pour vous montrer, c'est vrai qu'il y a eu la première clinique pour chats a été ouverte par un homme à Pasadena en 1932, mais vraiment la maman de la médecine féline, c'est Jean Allsworth, qui enfant avait dans la grange de ses parents créé son premier hôpital pour chats en disant qu'elle n'avait pas eu beaucoup de succès à l'âge de 10 ans, qu'elle avait surtout chanté des requiem et des chansons. Mais cette femme-là a toujours aimé les chats. C'est elle qui... Elle a travaillé à l'Angel Memorial à Boston. C'est elle qui a identifié en 1963 la péritonite infectieuse féline, une maladie pour laquelle, malheureusement, on n'a toujours pas de traitement. Et elle est morte à l'âge de 91 ans avec, dans ses bras, Zoé, sa chatte, qui avait 19 ans, et en écoutant un opéra. Et cette femme a vraiment... complètement révolutionné la médecine féline. En 1987, elle a été la première à produire une encyclopédie avec de nombreux co-auteurs, qui était la première Bible avec toutes les maladies des chats. Une deuxième femme qui a été extrêmement importante en 1958, c'est Joanne Jude. Cette femme a connu d'ailleurs, elle a fêté les 50 ans de l'organisation, le Filian Advisory Bureau qu'elle a mis en place. Et en 58, ce qu'elle voulait, c'était qu'il y ait des comprimés qui soient vraiment faits pour les chats, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Donc, c'était même pas. Voilà. Donc, elle voulait une médecine pour les chats. Donc, elle a créé cet organisme de charité qui a ouvert la porte en 96 à l'ESFM, European Society of Feline Medicine, qui est devenue International Society of Feline Medicine, et qui actuellement est la référence mondiale de la médecine féline. Création de clinique féline aux États-Unis en 1973, Barbara Stein, et dans la foulée, création aussi de l'Association de médecine féline américaine. Jim Richards, qui a été vous voyez, Dr. Mew dans ses bras, c'est quelqu'un de fabuleux, qui est mort beaucoup trop tôt, et qui était capable de rassembler tout le monde, de faire parler même ceux qui ne s'entendaient pas, et d'arriver à des recommandations internationales. Et ça, c'était en 2006, à un congrès où il avait fait parler Tony Buffington une journée entière sur la cystite. Et je trouve que c'est très caractéristique de ce qu'est le monde félin et de ce que sont les propriétaires de chats. C'est une propriétaire de chat qui a cousu ce chat. dans cette position très précise d'un chat qui a une cystite et qui n'arrête pas de se lécher et qui a mal. Et à la fin de la journée qu'on avait passée avec Tony Buffington, Jim a dit, mais ça me fait penser à... Il est allé le chercher et j'ai dit, on fait la photo parce que ça montre l'attachement qu'on a tous et aussi la qualité d'observation qu'on a. Grande maladie du chat, je vais vite, 1947, isolement de la panleucopénie, 1949, le premier vaccin contre la panleucopénie. Monsieur Mérieux, qui est ici au centre de la photo avec le costume bleu, avait l'habitude de dire qu'on a fait plus de progrès pour la médecine féline en 50 ans qu'en 50 siècles, et c'est vrai. Et sur cette photo que j'ai eu la joie de prendre, il y a tous les visages de tous les chercheurs qui ont découvert des virus du chat et aussi du chien, parce qu'il n'y a pas de frontière entre les médecines. Les carnets de santé, ça a été le premier pied dans la médicalisation. On doit l'initiative à Claude Lardy, qui a été la directrice commerciale. Aujourd'hui, on est carrément passé à l'assurance santé. Deuxième paramètre et agent de médicalisation, l'arrivée du pet food. L'arrivée du pet food, ça, c'est une publicité en 1963. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on est dans le diététique qui entre dans les cabinets vétérinaires avec parfois la tentation que ça devienne une activité plus commerciale que médicale, donc qui pose parfois des questionnements éthiques à certains. En Europe, première clinique pour chats en 88 à Copenhague. Première en France avec Michel Fradin-Ferme, qui est ici avec Fred Scott, donc en 88. Et alors, j'ai laissé une boulette là, parce qu'aujourd'hui, on est à 11 cliniques et on va être à 12 le 6 novembre. Bravo Aude, en France. Et on est à 19 vétérinaires félins en France. Voilà, quelques vitrines de cliniques pour chats en France. Ça, c'était dans le... Voilà, ça c'est tous les congrès qui existent maintenant de congrès pour chats. Je voudrais insister juste sur un point. Le chat est vraiment un éclaireur de santé, c'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas de frontière c'est sans frontière entre les médecines. Le chat en haut, c'est Gribouille, c'est un chat qui avait eu un fibrosarcome parce qu'on lui avait injecté entre les omoplates un mélange de différents produits. Il n'avait eu aucun vaccin, je précise, ce chat. Mais à cause des problèmes de fibrosarcome et de la présence d'hydroxyde d'alumine aussi, mais pas que, les propriétaires, les chercheurs, tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu une task force aux États-Unis qui s'est mise en place en 1994. Et aujourd'hui, maintenant, on a à la fois des recommandations avec les endroits où il ne faut pas faire d'injection et pas faire de vaccination aux chats. Et aussi, on a des technologies de vaccination qui sont complètement innovantes avec des vaccins qui sont sans adjuvant. De la même façon, donc ça, voilà, avec les endroits où il vaut mieux faire les injections chez les chats, injections vaccinales et injections tout court. Dans la compréhension même de certaines affections, Tony Buffington, on ne peut pas parler de l'histoire de la médecine féline sans parler de cet homme qui a consacré sa vie au départ aux calculs urinaires et qui finalement s'est retrouvé et se retrouve maintenant à toujours nous parler du cerveau. Dernière conférence qu'il a faite en France, c'est l'effet placebo chez les animaux de compagnie et particulièrement chez le chat. Placebo par procuration puisque le propriétaire est un intermédiaire. Et dernier exemple, avec le tabagisme passif, les publications montrent qu'un propriétaire de chat est beaucoup plus enclin à arrêter de fumer, juste parce que ça va avoir un impact sur son chat. Ma foi, si le chat peut être un vecteur de meilleure santé, profitons-en. Et ça, c'est une clinique à New York où Mark Peterson, qui est celui qui a identifié l'hyperthyroïdie chez le chat, et l'hyperthyroïdie chez le chat, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de problèmes, enfin, beaucoup de suspicions avec les perturbateurs endocriniens, encore une fois, sans frontières entre les médecines. Voilà. Je vais aller vite là-dessus. Ça, c'est un propriétaire de chat en Suisse. C'est pour dire l'ingéniosité des propriétaires de chats. Ça, c'est les différentes phases pareilles. Il existe maintenant des programmes pour rendre les structures vétérinaires plus accueillantes pour les chats, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, bien souvent, le frein à la médicalisation, c'était la cage, c'était le stress, et puis c'était les propriétaires disaient « je ne suis pas certaine d'être bien accueillie, donc je voudrais être mieux accueillie et que mon chat soit mieux considéré ». Donc, il y a beaucoup de programmes qui sont développés aux États-Unis, en Angleterre. La France continue à faire un peu de résistance et c'est bien dommage. Il y a 7 cliniques ou cabinets qui sont rentrés dans ce programme international. Oui. Et on a des guidelines qui ont été faits, des recommandations sur la meilleure façon d'aborder les chats, de les traiter en hospitalisation. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des photos que j'ai faites en 88 à Orléans, dans la clinique où je travaillais, qui était une très grande clinique, avec des cages, qui étaient des cages en inox, qui étaient les meilleures de l'époque. Ces photos-là, je ne les montrerai plus que dans une conférence sur l'historique. Je les ai complètement enlevées de mes diaporamas quand je fais des formations sur comment bien aborder les chats, parce qu'on voit très bien à quel point la chatte est déprimée, on voit très bien à quel point le papier journal, ça ne suffit pas à rendre la cage moins froide, l'inox résonne, alors que, voilà, ça c'est une hospitalisation d'aujourd'hui, normale, bien, c'est pas très grand, on est désolé. C'est vrai que, vous voyez, Marie, c'est pas plus grand qu'un module. Mais le chat, il mange. Il est très content. Enfin, en tout cas, il est très. Pour qu'un chat mange, faut qu'il soit heureux. Mais voilà, il a son bac, son coin repas, et il a un endroit pour dormir de façon sympathique. Il y a eu donc des recommandations, et il y a un ouvrage qui a vraiment révolutionné la vie des vétérinaires, si ça voilà, avait bien marché. En 2007, on a fait, avec le soutien et à l'initiative de Vétoquinol, les recommandations pratiques cliniques en médecine féline, qui ont réuni 17 experts de chaque discipline de médecine, 15 vétérinaires praticiens, et on a dit, voilà, il faudrait faire ça. Les praticiens nous ont dit, ça, par exemple, moi, j'avais dit, il faut arrêter de mettre des pansements sur les ovariectomies, sur les cicatrices, parce que les chats, ça fait monter leur taux de cortisol par 200%. Ils ont dit, on te croit, mais on n'est pas capable de le faire maintenant. Donc, les recommandations, c'est ce que disait Claire tout à l'heure, c'est qu'on essaie de faire des compromis et de se mettre d'accord. Mais véritablement, cet ouvrage qui a été imprimé a été remis à tous les vétérinaires et s'est retrouvé sur les bureaux à côté du Vidal et à côté du dictionnaire des médicaments vétérinaires. Et ça a été une vraie avancée. Voilà, par exemple, comment à l'université de Bristol, ils hospitalisent les chats avec des igloos, parce qu'il y a des chats très timides, donc qui n'ont pas envie de voir le personnel. C'est une vraie spécialité en Angleterre, et ça, c'est les trois premiers qui ont été déclarés spécialistes par nos amis anglais. Il y a maintenant des formations à distance avec la Nouvelle-Zélande, donc par webinaire. Et évidemment, la vision que les vétérinaires ont du chat a changé, particulièrement parce que la presse aussi a traité différemment et que le chat fait la une. L'essentiel a été le premier à faire une rubrique chat, et il l'a mis avant le chien, parce qu'on dit toujours chien et chat. Et merci Jean-Pierre Samaille, parce qu'il a respecté l'alphabet et il a dit chat avant chien. Voilà, avec un autre article. Aujourd'hui, on est dans une médecine que je qualifierais médecine féline, qui est attentive et qui est fervente. C'est-à-dire que tous les gens qui font de la médecine féline, on est tous passionnés, on est tous attentifs. Ça, c'est une des dernières publications cet été qui a été faite, où ils ont décodé, parce qu'on dit toujours que le chat n'a pas mal, le chat exprime peu ses expressions. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on chausse nos lunettes, nos moustaches de chat, et qu'on les regarde mieux. Et donc, ils ont fait exactement comme dans la série américaine Lie to Me, ils ont regardé tous les muscles du chat, comment ça travaille, etc. Alors, on n'a pas encore le décodeur complet, malheureusement, il faut quand même qu'on continue à faire travailler nos neurones, mais on a des outils extrêmement intéressants. Ça, c'est le travail de Sheila Robertson, qui est une vétérinaire juste fabuleuse. Elle a un PhD en bien-être animal, elle est prof d'anesthésie, d'analgésie, elle a aussi un diplôme en acupuncture, et elle a fait un travail fantastique depuis 15 ans sur la douleur des animaux, pour apprendre à reconnaître la douleur. Et c'est des images et d'autres que j'ai eu le plaisir de partager avec les agents animaliers de la SPA, parce que entre la douleur, l'inconfort, le mal-être, c'est pas toujours facile de faire la différence, mais c'est important de savoir qu'il faut agir et qu'il faut signaler le problème du chat à leur vétérinaire, en particulier dans la situation des chats de refuge. Et tout ça, les visages de la douleur, ça existe dans toutes les espèces, hein, mais il faut se souvenir qu'en 68, par exemple, pour reprendre la date du livre, moi, je me souviens très bien comment on m'a retiré les... Enfin, c'était avant. Entre 65 et 68, je me souviens très bien comment on m'a retiré les amygdales. À l'époque, pour les médecins, les enfants, mais ça souffrait pas. Donc maintenant, on sait quand même traiter la douleur, y compris chez les chats. Et c'est vrai que les spécialités, il y en a énormément. Il y a de l'acupuncture, il y a de la phytothérapie, il y a de la médecine énergétique, il y a de la radiothérapie, il y a de l'oncologie, des soins palliatifs. Et puis, ce qui arrive maintenant, et cet été, il y a eu un numéro spécial entièrement consacré à ça, qui s'appelait « Feline Behavior and Cognition », donc l'intelligence féline. Enfin, avec des études, et beaucoup d'études, dans une revue qui est une des meilleures revues en comportement. Et ce qui est amusant à voir, c'est la difficulté que les chercheurs ont à motiver les chats. Ben oui, parce que si on veut leur faire faire une étude, on intéresse qu'ils soient d'accord. Et ce qui est intéressant aussi de voir dedans, c'est que les chats sont assez sensibles aux friandises, à condition que ce ne soient pas les croquettes habituelles ou que ce ne soient pas les friandises habituelles. Et que quelque part, les chats, moi, ça m'a étonné de voir, oui, ça, un chat avec une très bonne friandise peut devenir un chien normal. Donc, il faut se méfier. Mais à côté de ça, ils ont démontré vraiment des choses en cognition extrêmement, vraiment intelligentes. Et entre autres, les chercheurs, là, c'est que chez le chien pour l'instant que c'est sorti, mais c'est prometteur. Ils ont enfin, au lieu de parler du test du miroir, ils ont envisagé que ce soit un miroir olfactif. Parce que le chien, comme le chat, ils vivent dans les odeurs. Donc, ils ont manipulé les odeurs. Ils se sont rendus compte que le chien, il se reconnaît lui-même et qu'une odeur qui est trafiquée. Et qu'en fait, notre vision de l'intelligence avec le test du miroir, bah, le chat, il sait qui il est. Hein, il n'a pas d'état mentaux de ce type-là, mais en revanche, il est évidemment capable et doué de cognition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en est maintenant quand même à démontrer scientifiquement ce que je pense et Michel de Montaigne et Gaston Percheron avaient parfaitement compris, comme d'ailleurs la plupart des propriétaires de chats, tous les amis des chats, c'est que les chats, alors là c'est un message pour l'Académie, mais Frédéric est au courant, sont des êtres sentients. Dans la sentience, ça veut dire capable d'émotion, capable de subjectivité, capable de conscience et capable surtout de se souvenir. Et à mieux les comprendre et mieux les soigner, on ne fait que grandir en humanité. Dans les vœux et les pistes de développement auxquelles je pense pour la médecine vétérinaire, je pense qu'il y en a plusieurs. Entre autres, je rejoins complètement Marie de les faire mieux identifier, de les stériliser plus tôt et avant le quatrième mois, qui est la date fatidique pour que les chattes fassent des petits. Et un vœu, là, en termes de sémiologie et surtout de vocabulaire, c'est qu'en France, pour l'instant, dans la revue scientifique qui est celle qu'on utilise tous le plus souvent, le Point Vétérinaire, je n'ai toujours pas réussi à convaincre les rédacteurs que le mot « patient » pouvait être utilisé pour le chat. Ce serait vraiment un grand signe d'humanité qu'on puisse le faire. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'être... Et j'ai oublié celle-là. Parce qu'en fait, ça, c'est un joke. Ça, c'est évidemment des petits chatons. Et ça, c'est un couple de chats qui se sont trouvés au refuge de Morée et qui sont juste craquants. Donc, pour qu'il y ait moins de chats dans les refuges, effectivement, il faut stériliser. Je vous remercie infiniment tous de votre attention. Je remercie tous les conférenciers de la qualité de leur conférence. Et alors, les actes seront publiés dans la revue d'Ethnozootechnie. Je vous conseille vivement de devenir membre de la Société d'Ethnozootechnie parce que ça vous permet d'avoir deux revues par an. Et sinon, vous pourrez l'obtenir auprès de Marianne Monod. Et on verra, puisque tout a été enregistré, si nous sommes capables, pour la première fois de cette société vénérable, de mettre les interventions sur Internet pour que plus de personnes puissent en profiter. Merci.